Jules Verne, L'île mystérieuse, chapitre 3. L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avait cédé, avait été enlevé par un coup de mer. Son chien avait également disparu. Le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître. « En avant !» s'écria le reporter. Et tous quatre, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigue, commencèrent leurs recherches. Le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde. Il ne s'était pas écoulé 2 minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre. Ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver. « Cherchons, cherchons !» cria Nab. « Oui, Nab, » répondit Gédéon Spilett, « et nous le retrouverons. Vivant, vivant. Sait-il nager ?» demanda Pencroff. « Oui, » répondit Nab. Et d'ailleurs, Top est là. » Le marin, entendant la mer mugir, secoua la tête. C'était dans le nord de la côte, et environ à 1/2 mille de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, que l'ingénieur avait disparu. S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à 1/2 mille, au plus, que devait être situé ce point. Il était près de 6 heures alors. La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure. Les naufragés marchaient en suivant vers le nord la côte est de cette terre, sur laquelle le hasard les avait jetés. Terre inconnue, dont ils ne pouvaient même soupçonner la situation géographique. Ils foulaient du pied un sol sablonneux, mêlé de pierres, qui paraissait dépourvu de toute espèce de végétation. Ce sol, fort inégal, très raboteux, semblait en de certains endroits criblé de petites fondrières qui rendaient la marche très pénible. De ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd, fuyant en toutes directions, que l'obscurité empêchait de voir. D'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées. Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer. De temps en temps, les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris, et écoutaient si quelque appel ne se ferait pas entendre du côté de l'océan. Ils devaient penser, en effet, que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien Top, au cas où Cyrus Smith eût été hors d'état de donner signe d'existence, seraient arrivés jusqu'à eux. Mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le cliquetis du ressac. Alors la petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres anfractuosités du littoral. Après une course de 20 minutes, les 4 naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames. Le terrain solide manquait. Il se trouvait à l'extrémité d'une pointe aiguë sur laquelle la mer brisait avec fureur. « C'est un promontoire, » dit le marin. « Il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite et nous gagnerons ainsi la franche terre. »« Mais s'il est là, » répondit Nab en montrant l'océan, dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre. « Eh bien, appelons-le. » Et tous, unissant leurs voix, lancèrent un appel vigoureux, mais rien ne répondit. Ils attendirent une accalmie. Ils recommencèrent. Rien encore. Les naufragés revinrent alors, en suivant le revers opposé du promontoire, sur un sol également sablonneux et rocailleux. Toutefois, Pencroff observa que le littoral était plus accore, que le terrain montait, et il supposa qu'il devait rejoindre par une rampe assez allongée une haute côte, dont le massif se profilait confusément dans l'ombre. Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage. La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante, et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement. On entendait à peine le bruit du ressac. Sans doute, ce côté du promontoire formait une anse semi-circulaire que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large. Mais à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et s'était allé à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied. Après un parcours d'un mille et demi, le littoral ne présentait encore aucune courbure qui permît de revenir vers le nord. Il fallait pourtant bien que ce promontoire dont on avait tourné la pointe se rattachât à la franche terre. Les naufragés, bien que leurs forces furent épuisées, marchaient toujours avec courage, espérant trouver à chaque moment quelque angle brusque qui les remît dans la direction première. Quel fut donc leur désappointement, quand après avoir parcouru 2000 environ, ils se virent encore une fois arrêtés par la mer, sur une pointe assez élevée, faite de roches glissantes. « Nous sommes sur un îlot, » dit Pencroff, « et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre. » L'observation du marin était juste. Les naufragés avaient été jetés non sur un continent, pas même sur une île, mais sur un îlot qui ne mesurait pas plus de 2000 en longueur et dont la largeur était évidemment peu considérable. Cet îlot aride, semé de pierres, sans végétation, refuge désolé de quelques oiseaux de mer, se rattachait-il à un archipel plus important? On ne pouvait l'affirmer. Les passagers du ballon, lorsque de leur nacelle ils entrevirent la terre à travers les brumes, n'avaient pu suffisamment reconnaître son importance. Cependant, Pencroff, avec ses yeux de marin habitués à percer l'ombre, croyait bien en ce moment distinguer dans l'ouest des masses confuses, qui annonçaient une côte élevée. Mais alors on ne pouvait, par cette obscurité, déterminer à quel système simple ou complexe appartenait l'îlot. On ne pouvait non plus en sortir puisque la mer l'entourait. Il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur, qui n'avait, hélas, signalé sa présence par aucun cri. Le silence de Cyrus ne prouve rien, dit le reporter. Il peut être évanoui, blessé, hors d'état de répondre momentanément, mais ne désespérons pas. Le reporter émit alors l'idée d'allumer sur un point de l'îlot quelques feux qui pourraient servir de signal à l'ingénieur. Mais on chercha vainement du bois ou des broussailles sèches. Sable et pierre, il n'y avait pas autre chose. On comprend ce que durent être la douleur de Nab et celle de ses compagnons, qui s'étaient vivement attachés à cet intrépide Cyrus Smith. Il était trop évident qu'ils étaient impuissants alors à le secourir. Il fallait attendre le jour. Où l'ingénieur avait pu se sauver seul, et déjà il avait trouvé refuge sur un point de la côte, où il était perdu à jamais. Ce furent de longues et pénibles heures à passer. Le froid était vif. Les naufragés souffrirent cruellement, mais ils s'en apercevaient à peine. Ils ne songèrent même pas à prendre un instant de repos. S'oubliant pour leur chef, espérant, voulant espérer toujours, ils allaient et venaient sur cet îlot aride, retournant incessamment à sa pointe nord, là où ils devaient être plus rapprochés du lieu de la catastrophe. Ils écoutaient, ils criaient, ils cherchaient à surprendre quelque appel suprême. Et leur voix devait se transmettre au loin, car un certain calme régnait alors dans l'atmosphère, et les bruits de la mer commençaient à tomber avec la houle. Un des cris de Nab sembla même, à un certain moment, se reproduire en écho. Harbert le fit observer à Pencroff, en ajoutant « Cela prouverait qu'il existe dans l'ouest une côte assez rapprochée. » Le marin fit un signe affirmatif. D'ailleurs, ses yeux ne pouvaient le tromper. S'il avait, si peu que ce fût, distingué une terre, c'est qu'une terre était là. Mais cet écho lointain fut la seule réponse provoquée par les cris de Nab, et l'immensité, sur toute la partie est de l'îlot, demeura silencieuse. Cependant, le ciel se dégageait peu à peu. Vers minuit, quelques étoiles brillèrent, et si l'ingénieur eût été là, près de ses compagnons, il aurait pu remarquer que ces étoiles n'étaient plus celles de l'hémisphère boréal. En effet, la polaire n'apparaissait pas sur ce nouvel horizon. Les constellations zénitales n'étaient plus celles qu'il avait l'habitude d'observer dans la partie nord du nouveau continent. Et la croix du sud resplendissait alors au pôle austral du monde. La nuit s'écoula. Vers 5 heures du matin, le 25 mars, les hauteurs du ciel se nuancèrent légèrement. L'horizon restait sombre encore, mais avec les premières lueurs du jour, une opaque brume se leva de la mer, de telle sorte que le rayon visuel ne pouvait s'étendre à plus d'une vingtaine de pas. Le brouillard se déroulait en grosses volutes qui se déplaçaient lourdement. C'était un contretemps. Les naufragés ne pouvaient rien distinguer autour d'eux. Tandis que les regards de Nab et du reporter se projetaient sur l'océan, le marin et Harbert cherchaient la côte dans l'ouest. Mais pas un bout de terre n'était visible. « N'importe, » dit Pencroff. « Si je ne vois pas la côte, je la sens. Elle est là, là, aussi sûre que nous ne sommes plus à Richmond. » Mais le brouillard ne devait pas tarder à se lever. Ce n'était qu'une brumaille de beau temps. Un bon soleil en chauffait les couches supérieures, et cette chaleur se tamisait jusqu'à la surface de l'îlot. En effet, vers 6h30, 3/4 d'heure après le lever du soleil, la brume devenait plus transparente. Elle s'épaississait en haut, mais se dissipait en bas. Bientôt tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage. Puis la mer se montra suivant un plan circulaire, infini dans l'est, mais bordé dans l'ouest par une côte élevée et abrupte. Oui, la terre était là. Là, le salut, provisoirement assuré, du moins. Entre l'îlot et la côte, séparé par un canal large d'un demi-mille, un courant extrêmement rapide se propageait avec bruit. Cependant, un des naufragés, ne consultant que son cœur, se précipita aussitôt dans le courant, sans prendre l'avis de ses compagnons, sans même dire un seul mot. C'était Nab. Il avait hâte d'être sur cette côte et de la remonter au nord. Personne n'eût pu le retenir. Pencroff le rappela, mais en vain. Le reporter se disposait à suivre Nab. Pencroff, allant alors à lui. « Vous voulez traverser ce canal ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit Gédéon Spilett. « Eh bien, attendez, croyez-moi, » dit le marin. « Nab suffira à porter secours à son maître. Si nous nous engagions dans ce canal, nous risquerions d'être entraînés au large par le courant, qui est d'une violence extrême. Or, si je ne me trompe, c'est un courant de jusant. Voyez la mer baisse sur le sable. Prenons donc patience, et à mer basse, il est possible que nous trouvions un passage guéable. » « Vous avez raison, » répondit le reporter. « Séparons-nous le moins que nous pourrons. » Pendant ce temps, Nab luttait avec vigueur contre le courant. Il le traversait suivant une direction oblique. On voyait ses noires épaules émerger à chaque coupe. Il dérivait avec une extrême vitesse, mais il gagnait aussi vers la côte. Ce demi-mille qui séparait l'îlot de la terre, il employa plus d'une demi-heure à le franchir, et il n'accosta le rivage qu'à plusieurs milliers de pieds de l'endroit qui faisait face au point d'où il était parti. Nab prit pied au bas d'une haute muraille de granit et se secoua vigoureusement. Puis, tout courant, il disparut bientôt derrière une pointe de roche qui se projetait en mer, à peu près à la hauteur de l'extrémité septentrionale de l'îlot. Les compagnons de Nab avaient suivi avec angoisse son audacieuse tentative, et quand il fut hors de vue, ils reportèrent leur regard sur cette terre, à laquelle ils allaient demander refuge, tout en mangeant quelques coquillages dont le sable était semé. C'était un maigre repas, mais enfin, c'en était un. La côte opposée formait une vaste baie, terminée au sud par une pointe très aiguë, dépourvue de toute végétation et d'un aspect très sauvage. Cette pointe venait se souder au littoral par un dessin assez capricieux et s'arc-boutait à de hautes roches granitiques. Vers le nord, au contraire, la baie s'évasant formait une côte plus arrondie, qui courait du sud-ouest au nord-est et finissait par un cap effilé. Entre ces deux points extrêmes, sur lesquels s'appuyait l'arc de la baie, la distance pouvait être de 8 milles. À un demi-mille du rivage, l'îlot occupait une étroite bande de mer et ressemblait à un énorme cétacé, dont il représentait la carcasse très agrandie. Son extrême largeur ne dépassait pas un quart de mille. Devant l'îlot, le littoral se composait en premier plan d'une grève de sable semée de roches noirâtres qui, en ce moment, réapparaissait peu à peu sous la marée descendante. Au deuxième plan se détachait une sorte de courtine granitique, taillée à pic, couronnée par une capricieuse arête à une hauteur de 300 pieds au moins. Elle se profilait ainsi sur une hauteur de 3000 et se terminait brusquement à droite par un pan coupé qu'on eût cru taillé de main d'homme. Sur la gauche, au contraire, au-dessus du promontoire, cette espèce de falaise irrégulière, s'égrénant en éclats prismatiques et faite de roches agglomérées et d'éboulis, s'abaissait par une rampe allongée qui se confondait peu à peu avec les roches de la pointe méridionale. Sur le plateau supérieur de la côte, aucun arbre. C'était une table nette, comme celle qui domine Cape Town, au Cap de Bonne-Espérance, mais avec des proportions plus réduites. Du moins, elle paraissait telle vue de l'îlot. Toutefois, la verdure ne manquait pas à droite, en arrière du pan coupé. On distinguait facilement la masse confuse de grands arbres, dont l'agglomération se prolongeait au-delà des limites du regard. Cette verdure réjouissait l'œil, vivement attristée par les âpres lignes du parement de granit. Enfin, tout en arrière-plan et au-dessus du plateau, dans la direction du nord-ouest, et à une distance de 7 000 au moins, resplendissait un sommet blanc que frappaient les rayons solaires. C'était un chapeau de neige, coiffant quelques monts éloignés. On ne pouvait donc se prononcer sur la question de savoir si cette terre formait une île ou si elle appartenait à un continent. Mais à la vue de ces roches convulsionnées qui s'entassaient sur la gauche, un géologue n'eût pas hésité à leur donner une origine volcanique, car elles étaient incontestablement le produit d'un travail plutonien. Gédéon Spilett, Pencroff et Harbert observaient attentivement cette terre, sur laquelle ils allaient peut-être vivre de longues années, sur laquelle ils mourraient même si elle ne se trouvait pas sur la route des navires. « Eh bien, demanda Harbert, que dis-tu, Pencroff ?»«
Eh bien, répondit le marin, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout, nous verrons. Mais voici le jusant qui se fait sentir. Dans 3 heures, nous tenterons le passage, et une fois là, on tâchera de se tirer d'affaire et de retrouver M. Smith. »
Pencroff ne s'était pas trompé dans ses prévisions. 3 heures plus tard, à mer basse, la plus grande partie des sables formant le lit du canal avait découvert. Il ne restait entre l'îlot et la côte qu'un chenal étroit, qu'il serait aisé sans doute de franchir. En effet, vers 10 heures, Gédéon Spilett et ses deux compagnons se dépouillèrent de leurs vêtements. Ils les mirent en paquets sur leur tête, et ils s'aventurèrent dans le chenal, dont la profondeur ne dépassait pas 5 pieds. Harbert, pour qui l'eau eût été trop haute, nagea comme un poisson, et il s'en tira à merveille. Tous trois arrivèrent sans difficulté sur le littoral opposé. Là, le soleil les ayant séchés rapidement, ils remirent leurs habits, qu'ils avaient préservés du contact de l'eau, et ils tinrent conseil.